Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h58, c'est reparti. Bon courage à tous pour le réveil. On est ensemble jusqu'à 9h. Apolline Matin, et c'est l'annonce de la nuit, un cessez-le-feu au Moyen-Orient en échange de la réouverture du détroit d'Ormuz. Les frappes américano-israéliennes se sont arrêtées et l'Iran confirme stopper ses frappes contre les pays de la région. Les deux camps crient victoire. Toutes nos informations dans les journaux de la rédaction. À 8h30 dans le face-à-face, ce sera le général Jean-Paul Paloméros qui sera mon invité, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. On va comprendre avec lui si la paix est proche. Les Iraniens disent avoir proposé une liste de 10 points aux Américains qui, eux, en ont 15. Cette nuit, le prix du baril de pétrole est immédiatement repassé sous les 100 dollars. Les bourses asiatiques repartent à la hausse. Les marchés financiers sont euphoriques. Voilà ce que nous dira Emmanuel Le Chypre. L'économie, c'est à 8h10 sur RMC. Et puis, est-ce que ce sera suffisant pour que les prix du carburant retrouvent leur prix d'avant la crise? On y revient évidemment tout au long de cette matinale. Et à 7h50, comme chaque mercredi, c'est notre voix de droite, Louis Sarkozy. Eh bien, il a une solution. Il veut qu'on aille chercher le gaz et le pétrole en France. Tout ça vous fait réagir. Direction le 3216 et vos messages sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Il est 6h59 dans une poignée de secondes, le journal de 7h. Mais d'abord la météo, et ça fait bien plaisir parce que ça tient en deux mots, beau et chaud.
Exactement, c'est un temps complètement estival encore pour aujourd'hui, alors qu'on a battu des records de chaleur hier, par exemple à Gouville, dans la Manche, 29 degrés du jamais vu en avril. Cet après-midi, on devrait attendre 29 degrés à Limoges, 28 à Bordeaux, 27 à Lyon, 25 pour Paris, 23 à Marseille, comme à Brest, 21 à Lille, 18 à Nice. Pour le soleil, c'est pas compliqué parce qu'il y en aura absolument pour tout le monde. Aucune exception aujourd'hui, il fera très beau partout.
Il est 7h, très bon réveil à tous. Merci d'écouter RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une victoire totale et complète après sa menace d'anéantir l'Iran. Donald Trump lui offre un répit, 15 jours pour négocier la paix, un cessez-le-feu réciproque avec Téhéran qui promet la réouverture du détroit d'Ormuz. Nous serons à Washington dans ce journal. La libération de Cécile Kohler et Jacques Paris attendue en France aujourd'hui après 4 années passées en Iran. Et le débat sur le passage à niveau relancé après la collision dans le Pas-de-Calais entre un TGV et un poids lourd qui a fait un mort hier matin.
L'espoir d'une paix ce matin au Moyen-Orient.
Elle sera sur la table de discussion au Pakistan vendredi entre les États-Unis et l'Iran qui ont validé hier soir un cessez-le-feu temporaire de 2 semaines réciproque en échange de la réouverture du détroit d'Ormuz. Donald Trump qui parle ce matin d'une victoire totale pour les États-Unis en a fait l'annonce sur son réseau social. Antoine Delard, correspondant RMC à Washington, le président américain parle même de discussions très avancées avec l'Iran.
Oui, et Donald Trump a posté son message 1h30 seulement avant l'expiration de son ultimatum. Il explique qu'il suspend ses bombardements contre l'Iran et annonce une trêve de 15 jours. Un cessez-le-feu mutuel, dit Donald Trump, qui évoque par ailleurs la réouverture du détroit d'Ormuz, sans préciser sous quelles conditions cela va se faire, alors que les Iraniens de leur côté font comprendre qu'il pourrait y avoir un système de péage. Le président américain évoque aussi une proposition d'accord en 10 points soumise par Téhéran, un plan qu'il qualifie de base de négociation viable. Selon les médias américains, il pourrait même y avoir une première réunion en personne dès vendredi à Islamabad entre Iraniens et Américains pour négocier un accord de paix sur le long terme. La Maison-Blanche salue les talents de négociateur de Trump qui a fait reculer les Iraniens. La Maison-Blanche qui, par ailleurs, indique qu'Israël va également respecter ce cessez-le-feu de 15 jours.
Et si l'État hébreu soutient la décision américaine, il indique ce matin que ce cessez-le-feu ne concerne pas le Liban, réaction aussi des marchés avec une baisse drastique du baril de pétrole qui repasse sous la barre des 100 dollars. Alors une question ce matin, cela peut-il avoir des conséquences sur les prix à la pompe? Ces automobilistes rencontrés à Paris l'espèrent.
Le monde entier attend que les prix descendent, donc forcément je pense qu'il y aura une chute et ça aidera sûrement beaucoup de Français au quotidien, aller au travail, à aller voir la famille, faire les courses, parce que ça coûte quand même quelque chose.
On verra bien. Mais bon, pour ma part, c'est le fait de savoir que les taxes de l'État ont une grosse part sur le prix final. Est-ce que c'est vraiment du côté du détroit d'Ormuz ou du côté des raffineurs qu'il faut regarder? Je me dis, personnellement, l'État pourrait faire quelque chose vraiment s'il le voulait, et c'est pas le cas.
Un propos recueilli ce matin à Paris par Romain Hougue. La situation au Moyen-Orient, objet d'un conseil de défense à 8h30 à l'Élysée en amont d'un conseil des ministres durant lequel le gouvernement doit présenter sa loi de programmation militaire visant à renforcer l'effort budgétaire de l'État face à l'aggravation des menaces avec l'espoir d'une adoption au Parlement d'ici l'été.
Et puis le soulagement, après 4 années en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris sont en route vers la France.
Annonce d'Emmanuel Macron hier, libéré en novembre après plusieurs années de prison. Le couple de ressortissants français était depuis assigné à résidence au sein de l'ambassade française de Téhéran qu'ils ont quitté hier pour Bakou en Azerbaïdjan. C'est de là, Thomas Becker, service politique RMC, qu'ils vont s'envoler pour rejoindre Paris dans la matinée.
Oui, absolument. Et tout ça, c'est le résultat d'un effort de longue haleine, explique l'Élysée. Hier, tout s'est accéléré. Cécile Kohler et Jacques Paris ont pu prendre la route vers l'Azerbaïdjan, 800 kilomètres pour quitter l'Iran. Un trajet sécurisé dans un pays en pleine guerre, sans coordination particulière avec les États-Unis ou Israël. Le résultat de semaines de négociations aidées, précise l'Élysée, par la médiation de l'État d'Oman. Les deux otages avaient été remis en liberté le 4 novembre dernier. Ils attendaient depuis à l'ambassade de France avec l'interdiction de quitter le territoire iranien. Ils partageaient alors le quotidien des diplomates français sur place à Téhéran, un peu comme des colocataires, explique l'Élysée. Hier, tant que les deux otages étaient toujours sur le territoire iranien, la diplomatie française redoutait toujours un contretemps, un changement de posture du régime, surtout en plein milieu de la guerre. L'Iran a finalement laissé sortir les deux otages et annoncé dans la foulée la remise en liberté de Mahdieh Esfandiari, une citoyenne iranienne arrêtée en France en 2025 et condamnée pour apologie du terrorisme. De leur côté, l'Élysée et le Quai d'Orsay refusent de faire un lien entre les deux sujets.
Thomas Becker du service politique d'RMC. Et ne manquez pas, juste après votre journal Thibault, Karine Rivoallon, qui est l'avocate des familles de Cécile Kohler et de Jacques Paris. Elle sera en direct avec moi sur RMC. Il est 7h05.
Le trafic ferroviaire entre Béthune et Lens, toujours interrompu ce matin et jusqu'à demain. Conséquence de la collision entre un poids lourd et un TGV sur un passage à niveau à hauteur de Bully-les-Mines hier matin. Il n'était pas considéré comme dangereux. Le conducteur du train est mort. 15 personnes sont blessées. Une enquête pour homicide routier est ouverte. Le chauffeur du camion, un Polonais de 30 ans, a lui été placé en garde à vue. Il transportait du matériel militaire, un convoi exceptionnel, Louis Salé, qui nécessite quelques précautions.
Eh bien, pour emprunter un passage à niveau, un convoi exceptionnel doit en aviser la SNCF. Il transporte une charge lourde et peut parfois se retrouver coincé, explique Fabien Villedieu, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail.
Sur le passage à niveau, il y a une espèce de dodane qui se fait. Et si vous avez votre camion qui a un bas de caisse très bas, il peut arriver, et peut-être, alors je ne sais pas si ça s'est arrivé dans ce cas-là, mais il peut arriver que le camion se pose sur le passage à niveau et du coup, il ne puisse plus bouger. Avoir des mesures plus strictes sur les convois exceptionnels pourrait en tout cas éviter d'avoir ce type de situation.
Il y a deux semaines, un TER avait aussi percuté un convoi exceptionnel sur un passage à niveau dans le Var. Le conducteur du camion était alors décédé. Un accident similaire est survenu à Boulsicourt dans les Ardennes en 2019. Pascal Mauroy, maire de la commune.
C'est un passage à niveau qui est assez surélevé. Et donc ils sont engagés sur le passage à niveau et se sont trouvés bloqués. Et c'est vrai que les convois exceptionnels sont souvent problématiques sur les passages à niveau.
En 2024, 89 accidents, dont 20 mortels, ont été recensés sur des passages à niveau.
La grève des ambulanciers ce mercredi, les syndicats appellent à une journée blanche pour alerter sur les risques de l'effondrement du secteur. Le PSG en favori ce soir face à Liverpool, match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, 21h et bien avant sur AMC avec Rotten sans flamme en direct du Parc des Princes à 18h. On suivra aussi d'un œil l'autre rencontre opposant le Barça à l'Atlético Madrid. Hier, l'autre club madrilène, le Real, s'est incliné à domicile, battu 2-1 par le Bayern Munich. Les coéquipiers de Kylian Mbappé, buteur hier soir, se retrouvent mal embarqués, Edgar Grolo.
Oui, en marquant à la 74e minute, Kylian Mbappé a redonné espoir à un Real Madrid dominé, parfois même surclassé par le Bayern Munich. Vivement critiqué avant la rencontre en Espagne, l'attaquant français a répondu présent selon son entraîneur Alvaro Arbeloa.
C'était un Mbappé très investi dans toutes les tâches, capable de déséquilibrer, capable d'être lui-même le meilleur joueur du monde, une menace constante pour la défense du Bayern. C'est le Mbappé qu'on veut voir. Si quelqu'un ne croit pas à la qualification, qu'il reste à Madrid, parce qu'on va tout tenter pour gagner à Munich.
Plus impliqué en défense qu'à son habitude et encore décisif en attaque, Kylian Mbappé a signé son 14e but en 10 matchs de Ligue des Champions cette saison. Il n'est plus qu'à 3 unités d'égaler le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une édition. Mercredi prochain en Allemagne, le Real Madrid devra rattraper son but de retard, sous peine de se diriger vers une nouvelle élimination en quart de finale, comme l'an passé.
À noter aussi la victoire d'Arsenal sur la pelouse du Sporting Portugal. Et Paul Sexas qui a encore frappé, vainqueur hier en solitaire de la deuxième étape du Tour du Pays Basque avec deux victoires en deux étapes. Le jeune cycliste français de 19 ans conforte sa place de leader au classement général avec près de 2 minutes d'avance sur son poursuivant Primoz Roglic.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08. On part au 32-16. Bruno qui nous appelle. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
Bruno, chauffeur de convoi exceptionnel dans le Gard. Merci de nous appeler. On a évidemment hâte d'entendre votre témoignage après l'accident gravissime hier et rarissime heureusement entre un convoi exceptionnel qui était sur un passage à niveau et ce TGV dans le Nord. Vous en passez, j'imagine, des passages à niveau avec vos convois exceptionnels. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà eu peur?
Ben, peur, non, parce que on a des choses à faire avant, donc voilà, des règles. Il faut qu'on appelle, bon, généralement, par exemple, sur Aix-les-Bains, on a un passage à niveau à passer. Ouais. Là, il faut appeler la police. La police nous accompagne. La police appelle la SNCF. Hein, on dit, il y a un convoi qui va passer. Et la SNCF leur dit, bah, attendez, il y a un train qui va passer. Donc, on attend. Le train passe et après, on peut passer. Il y a des règles à respecter, effectivement, sur des passages à niveau. Après, est-ce que là, il y a eu des ordres pour faire un appel à la SNCF ou pas sur ce passage à niveau de l'accident d'hier, je ne sais pas.
C'est étonnant, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est quand même que d'habitude, c'est très encadré.
Ah mais c'est très très encadré. Après, il faut que... Le problème, c'est qu'on n'a pas tout à fait le temps, on n'a pas toujours le temps d'appeler, d'attendre, etc. etc. Et ce qui s'est passé, je ne sais pas, je n'y étais pas dessus. Est-ce qu'il s'est coincé sur le passage à niveau, je ne sais pas. Est-ce qu'ils se sont trompés de route? Est-ce que c'était une route qui était donnée en convoi? Ça, je ne sais pas non plus. Voilà, il y a plein de
l'enquête est évidemment en cours, mais c'est vrai qu'à un passage à niveau, j'imagine que si votre convoi est particulièrement lourd, il faut s'assurer qu'on ne reste pas coincé au milieu, quoi.
Ouais, bah on a des remorques qui sont très basses, ils sont à 10 ou 15 centimètres du sol, donc dès qu'il y a un peu un dodane, quelque chose, ça coince, hein, c'est évident. Les routes sont pas adaptées aux genres de convois qui sont très 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 bas.
Très bas, très lourd. Vous bossez aujourd'hui, Bruno?
Oui.
Vous serez sur quel secteur?
Là, on est à Toulouse, au parc des Expositions. On vient de se garer.
Ok.
Parce que on doit passer Toulouse avant 7h le matin, donc on s'est garé juste avant.
Juste avant, donc ça y est, c'est fait. Et donc vous pouvez appeler et témoigner sur RMC. Merci beaucoup de votre appel, Bruno. Comme Bruno, vous n'hésitez pas à vous nous appeler au 3216. Il est 7h10, écoutez, c'était hier à Lyon.
Permettez-moi d'abord de partager avec vous la grande joie et le soulagement de savoir Cécile Kohler et Jacques Paris libres et sur le chemin du retour pour la France.
Ils sont libres. Emmanuel Macron qui annonçait donc hier la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris, deux enseignants français retenus en Iran depuis 4 ans. Bonjour Karine Rivoallan, vous êtes l'avocate des familles des deux enseignants qui sont donc sur le point d'arriver en France. Soulagement ce matin pour ceux qui étaient des otages de l'État iranien. Vous nous le direz dans un instant. Merci d'être en direct avec nous. Il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Ils étaient retenus en Iran depuis 4 ans et ça y est, Cécile Kohler et Jacques Paris sont libres. Bonjour Karine Rivoallan.
Bonjour.
Vous êtes l'avocate des familles des deux enseignants. Ils étaient retenus donc en Iran depuis 2022. Ils devraient arriver en France dans les heures qui viennent. Votre parti pris ce matin, c'est que c'est évidemment un soulagement. Soulagement pour ceux qui étaient otages de l'État iranien. Soulagement pour leur famille. Comment avez-vous appris la nouvelle?
Alors en réalité, c'est avec les familles qui ont été contactées peu de temps avant le tweet du président de la République. Voilà. C'est-à-dire que les autorités les informent lorsque les otages sont en sécurité. Ils attendent effectivement ils ont attendu que Cécile et Jacques, ce qui est assez logique, soient en sécurité avant effectivement d'informer les familles.
Qu'ils soient vraiment en sécurité, qu'on puisse dire que ça y est, c'est fait. Est-ce qu'on a pu leur parler? Est-ce que leurs familles ont pu échanger avec eux? Comment vont-ils?
Alors, ils vont bien. Leur famille, effectivement, échange en réalité maintenant depuis leur arrivée à l'ambassade de France en Iran assez régulièrement, puisque après la fin de cette détention dans la prison d'Evine et dans les geôles iraniennes, à partir du moment où ils sont arrivés à l'ambassade le 4 novembre 2025, ils ont pu échanger librement avec leur famille, ce qui était vraiment un changement énorme pour les familles. Donc voilà, ils vont bien, ils vont avoir besoin de temps pour se reconstruire et ils vont avoir besoin effectivement de calme et de sérénité, parce qu'on sait aussi que s'agissant des otages, quand ils reviennent sur le territoire national, c'est également un choc important, la libération.
Et un choc de libération, évidemment, mais qu'il faut accompagner le mieux possible. Est-ce que vous savez ce qui va se passer ensuite? C'est-à-dire qu'ils devraient arriver, on est d'accord, dans les heures qui viennent. Ils ont fait étape d'abord en sortant de l'Iran.
Alors normalement, ils vont arriver effectivement sur le territoire français et retrouver leur famille. Et habituellement, généralement, ce qui se passe pour les otages, c'est qu'ils sont accompagnés aussi médicalement pendant un temps, ce qui permet d'avoir une sorte de sas de décompression avant de rejoindre, une vie normale. S'agissant de Cécile et Jacques, après tout va dépendre de leur choix, de ce qu'ils souhaitent faire, compte tenu de la spécificité qui a été la leur de rester 5 mois à l'ambassade de France en Iran.
Parce qu'effectivement, il y a eu en quelque sorte ce sas après les geôles iraniennes. Il y a évidemment la question de la contrepartie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On sait que parallèlement, j'allais dire concomitamment, l'iranienne Mahdieh Esfandiari, qui avait été condamnée en France pour apologie du terrorisme, a vu son assignation à résidence levée hier. Est-ce que vous avez des informations?
Non. Et c'est vrai que dans le discours des autorités iraniennes, effectivement, on peut entendre le lien qui est fait, mais par la République islamique d'Iran. Cela dit, les autorités françaises, elles, ne font pas le lien entre ces deux affaires qui, en réalité, n'ont strictement rien à voir.
Alors, c'est mais évidemment...
Cela fait partie aussi, si vous voulez, du dialogue entretenu par les autorités iraniennes, de faire le lien entre ces deux affaires qui n'ont strictement rien à voir. Après, l'avancée des négociations, le ministère des Affaires étrangères a toujours été très clair auprès des familles sur le fait que les familles n'ont jamais eu connaissance des demandes que pouvait porter la République islamique d'Iran, ni l'état d'avancement des négociations, en réalité.
Donc, tout cela s'est passé, effectivement, du côté des autorités. Vous-même n'étiez pas dans la négociation à proprement parler. Et encore une fois, vous dites que ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que c'est aussi ce que dit et ce qu'affirme le Quai d'Orsay en France. Mais au minimum, le timing, évidemment, interroge, puisque la République islamique d'Iran avait établi ce lien entre les deux, et que le timing, c'est qu'hier, la signation à résidence, donc, de cette condamnée iranienne en France pour apologie du terrorisme a été levée. En tout cas, il y a leurs portraits, encore, j'ai vérifié ce matin, qui sont affichés sur un certain nombre de mairies de France. On imagine que ce soir, lorsqu'ils seront arrivés à Paris, ces portraits pourront symboliquement être détachés de ces façades.
Alors oui, tout à fait, vous avez entièrement raison. En réalité, on va voir aussi avec les comités de soutien, puisque on a effectivement une très belle mobilisation de la France en soutien à nos otages, et ce qui était essentiel en réalité pour effectivement obtenir aussi leur libération. Et donc, je pense que nous allons voir localement ce que souhaitent faire les comités de soutien, s'ils souhaitent organiser justement des rassemblements symboliques pour le retrait de ces
portraits, de ces affichages. De soutien. Merci beaucoup, maître Karine Rivoallan. Vous êtes donc l'avocate des familles de Cécile Colère et Jacques Paris. Notez également que sur les toutes dernières informations, évidemment, de ce cessez-le-feu annoncé à 2h du matin, eh bien, on y reviendra à 8h30. Mon invité, ce sera le général Jean-Paul Paloméros dans le face-à-face. Il est 7h20. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, les députés poursuivent aujourd'hui leur débat sur un texte qui veut refaire de l'Alsace une région administrative à part entière. L'Alsace, Arthur, c'est une région qui a une histoire tourmentée.
Eh oui, trimballée entre la France et l'Allemagne, l'Alsace n'a jamais rien fait comme les autres.
Vous nous le dites dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater l'interview du face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22, on remonte le temps, comme chaque jour, avec Arthur Chevalier. Arthur, après avoir échoué à s'entendre hier, les députés vont poursuivre aujourd'hui des débats sur un texte assez polémique, qui prévoit le retour de la région Alsace. Certains élus redoutent un effet boule de neige.
Et oui, depuis le redécoupage régional de 2016, l'Alsace fait partie de la région Grand Est, hein, avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Le but de cette loi, c'est justement de sortir l'Alsace du Grand Est pour qu'elle devienne une région à part entière. Ce que ça montre, c'est que les découpages administratifs ont des conséquences politiques, hein, puisque l'Alsace, c'est une des régions françaises avec l'identité la plus forte et qui a toujours eu des revendications.
Alors d'un autre côté, l'Alsace, elle a une histoire très complexe en France, avec la France.
Et vous avez raison, Apolline. Pendant longtemps, l'Alsace déjà était sous influence germanique. Donc elle appartenait à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne, tout simplement. Elle ne devient française que sur le tard, en 1648, donc au milieu du XVIIe siècle.
Quels problèmes vont se poser à ce moment-là pour l'intégration ou le lien entre la France et l'Alsace?
Alors déjà, l'Alsace est une région avec une double culture, hein, allemande et française, et ça se voit dès le début de son rattachement, puisque la France impose ce qu'on appelle la langue du roi, c'est-à-dire le français, mais dans les faits, la majorité des Alsaciens parlaient alsacien, donc en fait c'était très proche de l'allemand. Pareil pour la religion. En France, le protestantisme était interdit, puisque notre religion d'État, c'était le catholicisme. Eh bien, en Alsace, le protestantisme était autorisé. Vous voyez déjà des exceptions à la règle.
La France lui doit son hymne national.
Eh oui, on l'ignore un peu, mais la Marseillaise a été écrite à l'époque de la Révolution française, en 1792, par un militaire français qui s'appelait Rouget de Lisle. Et cette chanson, il l'a composée, jouée et chantée pour la première fois à Strasbourg.
L'Alsace va ensuite redevenir allemande.
Alors voilà, c'est un peu compliqué, hein. De 1870 à 1945, au gré des victoires de l'Allemagne ou de la France, l'Alsace va être allemande, puis française, puis à nouveau allemande et finalement française. Mais ce qu'elle a conservé, c'est son identité, hein, avec sa langue. Et certains petits Alsaciens se sont même sentis humiliés par le français après la guerre, puisque pour les punir, on leur demandait parfois de copier 100 fois la phrase suivante « Je ne parle pas l'alsacien en classe ».
Oui. Et aujourd'hui, l'Alsace, elle a donc encore un statut particulier.
Et oui, puisque la séparation de l'Église et de l'État qui s'applique en France, eh bien, ne s'applique pas chez elle. Je vous explique pourquoi. La loi sur la laïcité française date de 1905, sauf que, en 1905, on vient de le dire, l'Alsace était allemande. Donc on a considéré que la loi ne les concernait pas. D'ailleurs, les Alsaciens n'en voulaient pas vraiment. Résultat, en Alsace, à l'heure où nous parlons, les cultes sont enseignés à l'école publique et c'est même le ministère de l'Intérieur qui nomme et rémunère les prêtres, les diacres, les pasteurs, les rabbins. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une région qui ne fait rien comme tout le monde.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Tout de suite, Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour. Arnaud est avec nous, mon invité tout à l'heure dans le face-à-face. Eh bien, c'est un militaire, l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Jean-Paul Paloméros.
Paloméros. Mais non, mais Paloméros, il a un nom sympa, je trouve ça fait vacances.
C'est vrai.
Ça fait feel good. Hein, Apolline, on vous dirait. Apo, la matinale est délocalisée depuis les Paloméros. Bah, vous prenez votre maillot de bain, quoi. Ça fait boîte de nuit à Mykonos. Hey, Mathieu, hey, Arthur, vous étiez où, les gars? Bon, on a dansé toute la nuit au club Paloméros. Il y avait Nikos sur du Demis Roussos. Ça fait fun, quoi. Et en fait, non, le général, il vient pas nous voir pour les vacances. Vous analyserez en réalité les conditions du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. C'est fou l'influence que vous avez, Apo, hein. Franchement, vous annoncez que vous recevez un des plus grands généraux français et 3 heures plus tard, Donald Trump, cessez le feu.
C'est sûr.
Couché. Demain, vous nous réglez la guerre en Ukraine.
Mais évidemment.
Sympa, voilà.
Évidemment.
Vendredi, si on pouvait régler le conflit entre Olivier Faure et Boris Vallaud, ce serait pas un lourd.
C'est plus dur.
Plus dur. Alors, ça avait mal démarré. Hier, Donald Trump avait posté ce message. Une civilisation entière s'apprête à disparaître ce soir. J'ai pas envie que ça arrive, mais ça va probablement arriver. Ma femme m'a dit, putain, il a pas pris ses pilules aujourd'hui, papy. Moi, je me demande si au contraire, il a pas pris toutes les pilules. Les rouges, les bleus, les jaunes, par plaquette entière avec un grand verre d'eau de Javel. Et puis au final, il a accepté un plan en 10 points. Le détroit d'Ormuz va rouvrir pour 15 jours. Donald Trump a dit, c'est une victoire totale qui nous ramène pour 15 jours, donc, à la situation d'avant la guerre en un peu moins bien. Donc, ça valait le coup. Bien joué, champion. Donc, le général va analyser la situation. Ça doit pas être facile pour lui. Il est quand même grand officier de la Légion d'honneur, grand croix de l'Ordre national du mérite, médaille de l'année aéronautique. Comment voulez-vous qu'un type brillant comme ça comprenne ce qu'il y a dans le cerveau de Donald Trump. Non, il fallait appeler quelqu'un qui connaît le goût des feutres. Il... C'est bon la colle. Ils auraient pu discuter, quoi. Pour lui, c'est difficile d'expliquer Trump. Non, mais c'est comme pour un chanteur d'opéra. Ça, c'est pas faire une fausse note, quoi. Alors, à l'école militaire, pareil, on t'explique pas comment réagir à un président maquillé comme un clown de chez Pinder qui pose entre une ancienne escorte et le lapin de Pâques au balcon de la Maison Blanche en disant « Je vais exterminer une civilisation ». J'arrive même pas à croire que j'ai dit cette phrase. Mais c'est vrai, vous avez vu l'image. Il a menacé de détruire l'Iran à côté d'une mascotte du lapin de Pâques, comme à Disneyland, c'était fou. Sinon, vous avez remarqué, on voit plus trop Jordan Bardella en ce moment. C'est curieux, hein. Depuis que son héros, son idole, Donald Cherry, fait ce genre de truc, on l'entend un peu moins dire.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie ?
Ouais, c'est un peu moins. Alors après, on peut pas lui enlever qu'effectivement, Trump est increvable. C'est un jour un truc. Bon, allez, rendez-vous avec Jean-Paul Paloméros à 8h30. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. On vous retrouvera aussi à 8h20. Il est 7h27. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et puis, tiens, notez qu'à 7h50, notre voix de droite, Louis Sarkozy, eh bien, il sait. Où trouver du gaz et du pétrole, il nous le dira, en France. À tout de suite. 7h30, il fait beau, Géraldine.
Très beau, très chaud avec ces températures exceptionnelles. Cet après-midi, on sera jusqu'à 13 degrés au-dessus des normales de saison. C'est énorme. Il fera 29 degrés à Limoges, 28 à Bordeaux, 27 à Lyon, Clermont-Ferrand, Toulouse, 25 à Paris, 23 à Marseille, 21 à Lille, 18 à Nice, le tout avec du soleil absolument pour tout le monde. On aura encore le même type de temps demain. C'est à partir de vendredi que les températures vont nettement baisser, en tout cas pour la moitié nord.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les prix du carburant vont-ils enfin baisser, le baril de pétrole sous les 100 dollars après l'annonce de Donald Trump d'un cessez-le-feu en Iran en contrepartie de la réouverture du détroit d'Ormuz? Pas d'ambulance aujourd'hui, sauf pour urgence vitale, les ambulanciers en grève pour dénoncer leur manque de moyens. Et puis elle avait été annoncée en grande pompe par le gouvernement, mais la taxe de 2 euros sur les petits colis n'a pour l'instant aucun effet. C'est une information RMC. Les ventes de Shein augmentent.
Il menaçait d'anéantir l'Iran. Donald Trump annonce finalement un cessez-le-feu.
Pendant 15 jours, les Américains arrêteront leur bombardement, promet-il, si l'Iran rouvre complètement le détroit d'Ormuz. Passage stratégique pour le pétrole mondial que Téhéran accepte de débloquer. Ce qui soulage les marchés. Ce matin, les bourses asiatiques s'envolent. Le baril de pétrole, lui, repasse sous les 100 dollars. De quoi espérer une baisse des prix en station-service. Là pourrait arriver sous quelques jours, explique Philippe Chalmin, économiste spécialiste des matières premières.
La hausse s'arrête, la baisse commencera, attendons quand même une petite semaine. Si on a perdu une quinzaine de dollars, ça se traduisait par 15 centimes. Ça veut dire que l'on pourrait, en ce qui concerne au moins l'essence, repasser en moyenne en dessous de la barre des deux. On reste quand même à des niveaux élevés, mais les navires vont pouvoir recommencer à circuler. Il y a de fortes chances que la baisse se poursuive sur le prix du pétrole.
Les États-Unis promettent en tout cas d'aider à mettre fin à la congestion du trafic maritime dans le détroit et envisagent de parler en personne à l'Iran. Cela doit commencer après-demain au Pakistan pendant ces 15 jours de cessez-le-feu donc qui ne concerne pas le Liban, prévient le Premier ministre israélien. Une trêve peut-être déjà fragile des explosions entendues ce matin au Bahreïn. C'était il y a quelques minutes. C'est la fin d'un long calvaire pour Cécile Kohler et Jacques Paris. Les deux otages français ont quitté l'Iran. Ils doivent atterrir dans un peu plus d'une heure à Paris après près de 4 ans à Téhéran, d'abord dans la très dure prison d'Evin, puis ces 5 derniers mois à l'ambassade de France. Le régime les avait condamnés pour espionnage. La libération des deux enseignants est l'aboutissement d'un effort de très longue haleine, selon l'Elysée. Pas de train aujourd'hui et au moins jusqu'à demain matin entre Béthune et Lens dans le Pas-de-Calais, après ce grave accident hier sur un passage à niveau, un TGV qui a percuté un camion. Il transportait du matériel militaire. Le conducteur du train est mort, celui du camion a survécu, il est en garde à vue. Le passage à niveau était en état de fonctionnement normal, indique le PDG de la SNCF, Jean Castex. Il est 7h33 sur RMC. Les ambulanciers en grève aujourd'hui pour alerter sur un secteur au bord de l'effondrement. Sauf pour les urgences vitales, ils sont donc appelés à ne pas assurer le transport des patients, notamment ceux qu'il faut ramener chez eux après hospitalisation. Appel à la grève des deux principaux syndicats du secteur reçu au ministère de la Santé aujourd'hui, alors que le nombre de faillites a triplé en un an. Il réclame donc un fonds d'urgence et des négociations avec l'assurance maladie pour faire face, Solène Leroux, à d'importantes difficultés.
Des tarifs bloqués depuis des années, des factures impayées, des charges qui augmentent encore plus en ce moment.
La plus grosse contrainte aujourd'hui, c'est le prix du carburant.
Le risque, dit Philippe, c'est que la flambée des prix des carburants les oblige à prendre moins de patients.
Vu la consommation des véhicules, on va limiter tous nos déplacements de façon à limiter nos kilométrages à vide qui nous sont horriblement chers.
Car les ambulanciers sont rémunérés uniquement lorsqu'un patient est dans le véhicule. En poste depuis 7 ans, Daisy voit la situation se dégrader.
Pour l'instant, nous payons les heures. En début de mois et tout va bien, mais demain on ne sait pas comment ça va être. Donc oui, ça nous fait un petit peu peur.
La trésorerie est hyper tendue, confirme Guillaume Hortzmann, gérant de cette entreprise.
Il y a 3 mois, j'ai mis la main à la poche pour boucher la trésorerie et c'est comme ça. Il faut s'adapter, mais c'est pas viable.
Raison pour laquelle il se mobilise aujourd'hui aux côtés du syndicat dont il est membre. Leur principale demande, le déblocage d'un fonds d'urgence.
Ce fonds, il permettrait de mettre nos trésoreries dans un meilleur état. Ça nous permettrait de continuer notre activité.
Sans ça, les faillites continueront, alerte le principal syndicat du secteur, avec le risque de laisser sur le carreau des milliers de patients dépendants des ambulances.
7h35, la taxe sur les petits colis n'aura donc eu aucun effet.
Les ventes de Shein ont augmenté de 17% entre février et mars, information que vous révèle RMC. Ce matin, le gouvernement avait pourtant tenté de freiner l'arrivée massive de ces petits colis en les taxant à 2 euros, mais le géant chinois du e-commerce a réussi à les contourner, Victor Johannin.
Oui, on aurait pu s'attendre à ce que les ventes de Chine décrochent à partir du 1er mars, jour de l'entrée en vigueur de la taxe, mais elles ont progressé de 17%, au contraire, selon les données bancaires recueillies par l'application Joco. Et les ventes de Temu, le concurrent de Chine, n'ont manifestement pas été impactées non plus. La stratégie de ces deux plateformes est simple, faire atterrir leurs avions cargo en Belgique et aux Pays-Bas et acheminer les colis en camion. Une pratique complètement légale, précise une porte-parole de Chine. Ces deux pays n'appliquent pas encore de taxes, mais ce sera le cas à partir de juillet, comme dans toute l'Europe. Une généralisation attendue avec impatience à Bercy, où l'on refuse de parler d'échecs. Cette taxe fonctionne parce qu'elle oblige Chine à réagir et à la contourner, affirme-t-on dans l'entourage du ministre du Commerce.
Précision, Victor Johannin, service économie d'RMC. Une performance exceptionnelle en cyclisme, celle de Paul Sexas, seulement 19 ans, et pourtant impressionnant sur le Tour du Pays Basque. Le Français qui fait partie de l'équipe Decathlon CMA-CGM, propriétaire d'RMC. Il a remporté la deuxième étape hier de ce tour du grand spectacle et une victoire en solitaire, Maria Azé.
Lundi, sur le contre-la-montre, Paul Sexas s'écrasait ses adversaires. Hier, le Français les a atomisés.
C'est ça aussi que j'aime, c'est un peu le panache dans le vélo.
Une victoire à la Tadej Pogacar. Le Lyonnais attaque à 26 km de l'arrivée, maillot jaune sur le dos.
Le plus gros risque, c'est d'avoir peur d'attaquer. La meilleure défense, c'est l'attaque. Moi, j'avais pas peur et je me dis qu'est-ce que j'ai vraiment à perdre à attaquer et à tenter. J'avoue que j'ai, au bout de 2-3 minutes, quand je suis parti, je me suis dit que j'étais peut-être parti un peu tôt. Et je me suis dit que ça allait être très très long. J'ai réussi à le faire, et c'est incroyable.
Pas de quoi enflammer le coureur de 19 ans qui, pendant sa récupération, débrief avec sa mère des paysages du Pays Basque. Alors ses coéquipiers chez Decathlon, CMA-CGM, le font pour lui. Nicolas Prodhomme au micro d'Eurosport.
C'est impressionnant. Bon, on va peut-être pas boire deux coups d'affilée non plus parce que la semaine n'est pas finie, mais ouais, on va célébrer. C'est une chance de l'avoir dans notre équipe.
Paul Sexas a désormais près de 2 minutes d'avance au classement général du Tour du Pays Basque avant la 3e étape.
Et puis l'heure des retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et Liverpool ce soir au Parc des Princes, quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens favoris et confiants, coup d'envoi 21h.
Et puis le quintet, c'est à Lyon-Paris, départ 13h55.
La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 9, Impérial du Rabutin. L'outsider, c'est le numéro 7, Aïda Sautone, le 9 et le 7.
C'était le journal de Clara Gabillet. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Le trafic ferroviaire est interrompu au moins jusqu'à demain dans le Pas-de-Calais, entre Béthune et Lens, après un accident particulièrement violent, un accident rarissime, un TGV qui a percuté un poids lourd sur un passage à niveau. Bonjour Arnaud Aimé.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes spécialiste des transports. Nos passages à niveau sont-ils dangereux? Comment mieux les sécuriser? Est-il encore sûr de prendre le train? Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, avez-vous déjà eu des frayeurs sur un passage à niveau? Est-ce que vous pensez qu'il faut mieux les sécuriser? Est-ce que ça vous fait aussi hésiter même à prendre le train? Je vous attends au 3216 ou sur le WhatsApp des RMC 0612 424 424. Restez bien avec nous, il est 7h38.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41. Merci d'avoir choisi RMC et RMC Story, la télé, Canal 23. Après une collision spectaculaire et rarissime entre un TGV et un poids lourd, les passages à niveau sont en question. Hier matin, un TGV a donc percuté violemment un camion dans le Pas-de-Calais. Le conducteur du train est décédé. Le chauffeur du poids lourd est en garde à vue. Il y a 15 blessés. Bonjour Arnaud Aimé.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des transports pour le cabinet SIA. Est-ce que vous pouvez nous le dire ce matin? Ce genre d'accidents sont rarissimes. Qu'est-ce qui a bien pu se passer?
Alors, ce type d'accident, il est très rarissime statistiquement. C'est-à-dire que chaque jour, il y a à peu près 16 millions de véhicules qui traversent un passage à niveau en France. Et c'est un chiffre d'autant plus important que des passages à niveau, il y en a beaucoup. Il y en a plus de 14 000 sur le réseau ferré en France. Donc, ce type d'accident, il est rarissime parce qu'il représente, il n'est pas non plus complètement négligeable. Ça représente 20 à 30 morts par an en France. Donc, ramené aux 16 millions de passages chaque jour, c'est extrêmement faible. N'empêche, 20 ou 30 morts par an en France, c'est évidemment inacceptable. Et il y a un certain nombre d'actions qui sont lancées pour limiter la casse là-dessus.
Alors, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a affirmé que ce passage à niveau, il n'était pas du tout dans les passages à niveau dits sensibles ou particulièrement dangereux, que tout fonctionnait bien. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?
Alors, tous les passages à niveau comportent des risques. Cela dit, il y en a à peu près 150 qui sont classés en ultra priorité par le ministère des Transports et sur lequel le ministère, SNCF Réseau, les collectivités, les gestionnaires de voirie se disent il faut faire des travaux de manière prioritaire. Ça peut passer par la suppression tout simplement du passage à niveau ou bien par des aménagements. Pour revenir à votre question, Apolline de Malherbe, le fait qu'il s'agisse d'un convoi exceptionnel qui soit resté bloqué sur le passage à niveau, ça peut orienter l'enquête. On sait que des convois exceptionnels, par définition, c'est des dimensions particulières et des dimensions qui peuvent peut-être faire que ça passait pas bien sur un passage à niveau. Un cas possible, c'est le fait qu'un convoi exceptionnel, ça puisse être caisse très basse.
On a eu Bruno tout à l'heure qui était conducteur de convoi exceptionnel, qui effectivement témoignait de cette difficulté particulière.
Et c'est un cas classique parce qu'un passage à niveau, il peut y avoir un petit relief à ce niveau-là vu de la route, c'est-à-dire un petit dos d'âne ou à l'inverse un cassier, enfin c'est-à-dire une cuvette qui fait que le convoi exceptionnel, eh bien il peut frotter voire se bloquer sur la chaussée, à ce moment-là impossible de redémarrer.
Au fond, ça veut dire que pour vous le train est sûr, ce qui n'est pas tout à fait sûr, c'est la route ou le conducteur.
Oui, alors déjà sur le nombre de morts, hélas, c'est beaucoup plus les usagers de la route qui sont concernés, les automobilistes, les conducteurs d'autocars, de poids lourds, de convois exceptionnels, premièrement. Et deuxièmement, ce sont toujours, à peu près de mémoire, les usagers de la route, ou la route de manière générale, qui est responsable de l'accident et non pas le système ferroviaire.
Et justement, Karim nous appelle au 32-16 pour témoigner. Bonjour Karim.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Karim, vous êtes chargé d'affaires dans le secteur ferroviaire, justement, dans la région de Tours, en Indre-et-Loire. Et vous, vous l'observez, cette prise de risque parfois des automobilistes ?
C'est ça, tout à fait. Donc, comme Apolline a pu le souligner, donc nous, on est spécialisé dans l'émission sécurité ferroviaire. Et malheureusement, très très souvent, donc on intervient dans toute la France, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et très souvent, malheureusement, on a nos agents qui nous font des remontées par rapport à ça, parce que tout simplement, on a des usagers de la route qui ne respectent malheureusement pas spécialement la signalisation routière et ne cesse que les avertisseurs se mettent à sonner, à tenter également, et ils voient qu'il n'y a pas de train qui passe, ils tournent la tête à droite et à gauche et malheureusement...
Et ils se disent, c'est bon, je file quoi, n'importe
exactement,
quoi.
Exactement, tout à fait, très très souvent, très très souvent, même les cyclistes, hein, ça peut arriver également.
Ça veut dire que parfois, vos collègues, ils ont peur.
Tout à fait.
Ceux qui travaillent sur les chantiers.
Exactement, c'est ça. Donc en fait, nous, on est là pour du coup assurer la sécurité des agents qui interviennent sur les voies, aux abords des voies. Et malheureusement, vraiment, faut souligner aussi le comportement des usagers de la route. Tout à fait. Que ce soit même des cyclistes ou même des personnes qui conduisent un véhicule long ou léger, il y en a beaucoup qui ne respectent pas la signalisation.
Merci beaucoup. Merci de témoigner, Karim. Cette question, évidemment, Arnaud Aimé, elle pose aussi la question des passages à niveau. C'est-à-dire, beaucoup ont été supprimés. C'est-à-dire qu'un TGV, d'ailleurs, quand il est en vitesse normale de TGV, c'est-à-dire à pleine vitesse, il n'y a pas de passage à niveau.
Oui, effectivement, sur les lignes modernes, et c'est le cas de toutes les lignes à grande vitesse construites depuis les années 80, il n'y a pas de passage à niveau.
Ils sont soit dans un tunnel, soit sur un pont, soit
exactement,
c'est la route qui passe au-dessus.
Exactement,
mais il n'y a pas de croisement.
Et ça résulte d'un investissement en travaux publics pour construire ça. Le problème, c'est que l'essentiel du réseau ferré français, comme dans les autres pays, Russie, eh bien, c'est un réseau construit fin du 19e siècle, début du 20e siècle, à l'époque où c'était moins une préoccupation. Vous dites, il y en a beaucoup qui sont supprimés. Bah, il y en a surtout beaucoup qui restent. Je parlais des 14 000 qui restent encore. Et chaque année, les services de l'État, avec SNCF Réseau et tous les financeurs, en suppriment une à plusieurs dizaines. Donc, autrement dit, on ne pourra jamais tous les supprimer. Pourquoi ? Parce que supprimer un passage à niveau, en moyenne, ça coûte 5 millions d'euros.
Donc, c'est une question quand même, à un moment ou à un autre, d'argent. Est-ce qu'on peut quand même encore dire aujourd'hui, c'est vrai qu'on a en tête aussi le terrible accident en Espagne, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le train en France est sûr ?
Oui, le train en France est sûr. Le problème quand il y a des passages à niveau, c'est plus la sécurité quand même des usagers de la route. Quand il y a des blessés dans un train à l'occasion d'une collision à passage à niveau, en général, il s'agit plutôt de passagers qui se trouvaient debout ou en mouvement dans la rame et pas des passagers assis. Les passagers sont d'autant plus protégés que devant, il y a une locomotive et il y a le conducteur justement qui, hélas, parfois absorbe le choc.
Mais
les passagers sont très sécurisés et les gens sont beaucoup plus en sécurité s'ils utilisent le train que la route. On en parlait tout à l'heure sur le plateau. La route, c'est plus de 3000 morts par an en France.
Mathieu, il y a des messages effectivement
de
ceux qui passent ces passages à niveau.
Qui passent ce passage à niveau, comme Alicia qui nous écrit, je suis de Noyelles-les-Vermelles à côté de Bully-les-Mines, je passe tous les jours sur ce passage à niveau et il est sécurisé. J'ai souvent les barrières à 18h le soir pour le passage d'un TER au ralenti. Tout se passe bien, je comprends vraiment pas ce poids lourd qui a été percuté. Et j'ai beaucoup de réactions sur les passages à niveau en général, mais plus sur le comportement des automobilistes en réalité que sur le risque du train. Anthony nous dit, oui, j'ai déjà eu peur à un passage à niveau la semaine dernière. La voiture devant moi est passée alors qu'il y avait un feu rouge. Ça passe juste et les barrières qui descendaient. C'est le permis voiture qu'il faut arrêter de donner à n'importe qui, nous dit Anthony.
Quel conseil vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent ?
D'abord de respecter la signalisation, parce que la signalisation routière c'est important.
Au fond, c'est souvent
mon camarade réagir en face.
Ça devrait être une. Voilà. Oui, je précise pour ceux qui nous écoutent à la radio et qui ne nous regardent pas à la télévision que Louis Sarkozy, notre voix de droite, est rentré dans ce studio et qu'au fond, effectivement, ayant à un moment envisagé de supprimer
une simplification
nous aurons des panneaux. Des panneaux de signalisation, ça fait sourire, effectivement, Arnaud et
nous aurons d'autres occasions d'en reparler. Donc, respecter la signalisation, parce que cette signalisation, elle est très développée aux abords des passages à niveau. Et puis, si jamais on se retrouve bloqué à un passage à niveau parce que les barrières se sont abaissées, on est déjà au milieu, eh bien, il faut forcer la barrière. Ce sont des barrières cassables. Donc pour sortir.
On ne reste pas coincé. Oui, on roule et on s'en va.
On roule et la barrière se casse très facilement. Et puis si on n'arrive pas à redémarrer, en fait, à proximité des passages à niveau, il y a un téléphone d'urgence qu'il faut utiliser tout de suite pour appeler le régulateur ferroviaire qui, à ce moment-là, va arrêter les trains à proximité.
Donc ne pas oublier que ces barrières, elles sont cassables. Hein. Donc
pour sortir du passage à niveau, pas pour y rentrer.
On reste pas coincé. On reste pas coincé dedans. Et effectivement, on appelle et surtout, on respecte la signalisation. Ces panneaux-là, on les laisse, Louis Sarkozy ?
Non, pas exactement, mais à une autre occasion, si vous voulez, vu votre autoritarisme de la signalisation routière, je serais ravi de présenter un point de vue un peu plus libéral, si vous me permettez.
Mais je ne demande qu'à débattre.
On en reparlera. Aussi, et justement, on débat sur RMC et on alterne les voix de gauche et les voix de droite. C'est mercredi, c'est la voix de droite, vous l'aurez entendu. Il est avec nous, Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour.
Louis, ce matin, au fond, vous dites, il y a toujours eu cette phrase, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et vous vous dites, si on avait des idées et du pétrole.
Mais bien sûr, une France forte, Apolline, c'est une France qui est fort. Il faut exploiter nos ressources naturelles.
Vous nous le dites dans un instant, 7h50 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, Louis Sarkozy. Mais d'abord le bonus, Mathieu, avec les Beatles, comme on ne les a jamais vus.
Oui, alors je vous passe pas les Beatles, parce que le PSG accueille Liverpool ce soir au Parc des Princes.
Même
à suivre, évidemment,
si.
Sur RMC. Voilà. Mais parce qu'il y a une vraie info. Près de 60 ans après leur unique tournée japonaise, les Beatles refont surface en images des clichés totalement inédits pris en 66 à Tokyo. En fait, une centaine de photos qui avaient été oubliées, les négatifs oubliés sur une étagère dans les archives du Nippon Budokan, la salle où le groupe s'était produit. C'était la seule tournée des Beatles au Japon. On y découvre les Beatles sur scène, mais aussi en coulisses, des moments plus intimes, comme cette photo publiée par la salle de concert où figure un cliché de Lennon qui sourit à côté d'une poupée japonaise qu'on retrouvera quelques mois plus tard sur la couverture de l'album mythique Sgt. Pepper. Yellow submarine, yellow submarine, yellow
Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est mercredi. Et le mercredi, c'est la voix de droite. Louis Sarkozy. Bonjour, Louis.
Bonjour.
Le gouvernement doit annoncer dans les prochains jours de nouvelles aides ciblées pour certains automobilistes qui travaillent et qui sont en difficulté. De leur côté, LFI, la CGT appellent au blocage des prix à la pompe. Vous avez une autre idée.
Oui, Apolline. Une idée simple. Une idée parfaitement simple. Elle est presque évidente. L'indépendance, ou du moins la réduction drastique de notre dépendance. Il faut aller creuser, fracturer, exploiter chez nous nos ressources d'hydrocarbures en Outre-mer comme sur le territoire national.
Oui, enfin c'est quand même politiquement assez explosif. On parle de transition écologique et vous, vous nous dites faut forer.
Mais ce qui est explosif, Apolline, c'est la facture des Français. Parce que les aides, encore les aides, toujours les aides. Mais les aides, ce sont des impôts futurs. Et puis avec quel argent? L'argent que la France n'a plus. On est l'État le plus obèse du monde. On prélève plus de 45% de la richesse nationale et on croule sous les dettes.
Alors, les gens ne peuvent plus aller travailler. Le litre de gazole coûte plus de 2,30 €. Et vous, vous dites, non, on va prendre le temps de forer.
Ouais, l'urgence, avant tout, c'est la vérité, Apolline. Les propositions de la CGT ou de Jean-Luc Mélenchon sur le blocage des prix, c'est simple, c'est du communisme pur et dur. On bloque les prix, donc les distributeurs vendent à perte, donc ils arrêtent de livré, et vous avez quoi à la fin? Des files d'attente et des cuves vides, comme en Union soviétique. Ça n'a jamais marché, et ça ne marchera jamais. La seule solution, c'est d'arrêter d'être des mendiants de l'énergie et de devenir enfin des producteurs.
Mais je comprends pas, on nous a toujours dit, en France, on n'a pas de pétrole.
Mais c'est faux! On a des réserves colossales, Apolline. Regardez sous nos pieds, le bassin parisien, et notamment la Seine-et-Marne et Aquitaine. Les géologues le disent, il y a des gisements de pétrole de schiste et des gaz de couche qui pourraient couvrir des décennies de consommation. Melun peut devenir le nouveau Dubaï. En Guyane,
c'est
là.
Une formule d'Emmanuel Le Chypre. Non, je dois rendre à César ce qui est à César.
Écoutez, vous m'avez dit de le citer, alors moi je cite Emmanuel.
Bravo,
moi je cite tous
les grands auteurs.
En Guyane, au large, on a des réserves potentielles qui feraient de nous un petit émirat si on avait le courage d'aller les chercher. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se l'interdit par idéologie.
Vous parlez de fracturation hydraulique, le fameux gaz de schiste. C'est interdit depuis 2011.
Ah oui, c'est vrai. Alors déjà, il faut savoir, la technologie de 2026 n'a plus rien à voir avec celle des années 70. On sait aujourd'hui faire de la fracturation au propane liquide qui est récupérée à 100% et qui ne consomme pas une goutte d'eau. On sait faire de la stimulation thermique, c'est propre, c'est maîtrisé. Mais on préfère acheter du gaz de schiste américain, extrait n'importe comment et transporté par des méthaniers qui polluent autant que de millions de voitures. C'est d'une hypocrisie criminelle.
Donc il faudrait changer la loi.
Évidemment qu'il faut changer la loi. Il faut abroger d'urgence la loi Hulot de 2017. Cette loi, c'est l'acte de décès de notre souveraineté. Elle interdit tout nouveau permis de recherche d'hydrocarbures. Il faut libérer l'investissement, simplifier les procédures de forage. Si une entreprise veut investir des milliards pour explorer notre sous-sol, on devrait lui dire merci au lieu de lui envoyer la gendarmerie et des militants en sandales.
Vous prenez un retour au tout pétrole au moment où l'urgence écologique est là.
Je prône une chose. Le réalisme. On aura besoin d'hydrocarbures pour encore 30 ou 40 ans, ça, tout le monde le reconnaît. Aucun autre pays ne s'en empêche. Mais nous, on doit être les idiots de la ferme, alors que nous sommes parmi ceux qui polluent le moins. Soit on les produit chez nous, on crée des emplois, on touche des taxes et on baisse le prix à la pompe, soit on continue d'enrichir le Qatar et la Russie.
Vous parlez du nucléaire, j'imagine aussi.
Mais bien sûr aussi, on nous annonce 6 nouveaux EPR. Mais il en faut 20. Il faut lancer un plan de construction massif. C'est le seul moyen de faire en sorte que les Français roulent enfin en électrique.
Le nucléaire, le forage, Louis, tout ça, ça demande aussi des investissements. On trouve où l'argent si, comme vous le dites, l'État est le plus endetté déjà?
Dans le secteur privé. Dans le secteur privé, on arrête de subventionner les éoliennes qui ne tournent pas et on baisse la pression fiscale sur les entreprises énergétiques en échange d'investissements sur le sol français. En bref, on redevient souverain, fort, libre et paradoxalement, la souveraineté, la force et la liberté passent parfois par la réduction et la rationalisation de l'État.
Merci Louis Sarkozy, la voix de droite sur RMC. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Et je retiens cette formule, effectivement, quand Emmanuel, on doit le dire, les coulisses, quand Emmanuel Le Chypre est rentré dans ce studio et qu'il vous a croisé, Louis, il a dit « Melun is the new Dubai ».
Je cite les grands uns.
Effectivement. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une 15 jours sans bombardement. Donald Trump qui crie victoire, on se dirige peut-être vers la paix au Moyen-Orient. Et juste après le journal, vous l'avez compris, Emmanuel Le Chypre est déjà là. L'annonce de ce cessez-le-feu au Moyen-Orient, Emmanuel, vous nous direz que c'est un ouf de soulagement pour l'économie mondiale.
Champagne sur les marchés financiers, Apolline, les bourses flambent, le prix du pétrole chute, le prix des carburants même sur les marchés globaux chute. Bref, tout le monde n'entend qu'une seule nouvelle, le détroit d'Ormuz rouvre.
Vous nous le direz dans un instant, il y aura aussi la météo. Il fait beau, il est 7h57 sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.